C'est le président de la République qui avait insisté pour me recevoir au palais le vendredi précédant mon incarcération. Je n'avais rien à lui dire et n'avais guère envie d'une discussion amicale avec lui. Depuis sa funeste décision de dissoudre l'Assemblée nationale en 2024, nos relations s'étaient distendues. Je n'avais pas compris, encore moins accepté, ce que j'avais considéré comme un caprice, qui faisait autant de mal à la France qu'à son auteur. La méfiance s'était même installée à la suite du retrait de ma Légion d'honneur. Ce n'était pas tant le fait en lui-même que la manière qui m'avait profondément heurté. J'avais été promu chevalier en 2004 par Jacques Chirac, qui avait alors évoqué au titre de mes mérites supposés l'affaire Human Bomb, dans laquelle les circonstances m'avaient mis en situation de sauver des enfants de maternelle retenus en otage par un détraqué qui voulait faire sauter l'école entière. Mon élection à la présidence de la République avait fait de moi le grand maître de l'ordre, me conférant la dignité de grand croix. Chacun comprendra que je n'avais accompli aucun de ces actes dans le but d'être décoré. Que l'on me retire cette dernière m'importait assez peu. J'ai sans doute trop aimé ces vanités dans le passé. Il était temps de me détacher de ces honneurs factices, du moins en temps de paix, pour lesquels tant de gens seraient prêts à tous les sacrifices. Faire contre mauvaise fortune bon cœur est la meilleure façon d'éviter de souffrir. J'ai souvent utilisé cette méthode dans ma vie et j'ai vraiment fini par m'en convaincre. La forme de la décision, en revanche, m'avait blessé. Car le président Macron avait signé le décret le déchargeant de toutes ses responsabilités de grand maître de la Légion d'honneur au bénéfice de l'obscur général qui assurait les fonctions de grand chancelier dès qu'il s'agissait d'en exclure un membre, en l'occurrence moi. La démarche n'était pas la marque d'un grand courage. Elle lui permettait de se laver les mains d'un choix qui aurait dû lui revenir en dernier ressort. La faute était aggravée, du moins à mes yeux, par le fait qu'à aucun moment, Emmanuel Macron ne m'avait appelé pour m'en informer. S'il m'avait téléphoné pour s'expliquer, j'aurais compris ses arguments et accepté sa décision. À l'inverse, ne pas le faire actait une démarche que j'imaginais au minimum insincère. Nous nous en sommes expliqué plusieurs mois plus tard. Le président s'est excusé avec un réel fair-play, confessant avoir mal géré les choses, ne sachant pas comment me les expliquer, craignant que nous nous fâchions. J'ai écouté, sans être parfaitement convaincu, tant cette posture était à l'exact opposé de mon caractère qui me pousse à toujours préférer assumer et faire face. J'avais décidé en conséquence de tourner la page de notre amitié, sans pour autant entrer dans une opposition systématique à sa politique comme à sa personne. Emmanuel Macron avait suffisamment de contempteurs, d'ennemis déclarés, d'amis déçus pour que je vienne allonger cette liste interminable. Ce contexte particulier explique pourquoi je n'attendais rien du président de la République. Ni audience, ni même qu'il fît preuve d'un intérêt particulier pour ma situation. Je confesse avoir même hésité avant de répondre positivement à son invitation. Certains de mes proches m'incitaient d'ailleurs à la refuser, arguant que son attitude avait été déloyale. Je décidai à l'inverse de l'honorer, par respect pour la fonction présidentielle et aussi parce que je suis définitivement un incurable sentimental que l'on peut aisément faire fléchir par la gentillesse, l'attention ou même l'amitié, fût-elle surjouée. Je n'aime pas tenir rancune à quiconque, je ne sais pas faire la tête, encore moins bouder. Je ne suis pas à l'aise dans les situations incertaines, affectivement parlant. Je me suis donc rendu à l'Élysée, sans enthousiasme particulier, mais décidé à ne pas faire d'affront à mon interlocuteur. Je pénétrai dans le palais par la cour d'honneur, en fin d'après-midi. Sans être annoncé, le rendez-vous était officiel et donc assumé. C'était une bonne chose. Pour une fois, le président était à l'heure. Je n'ai pas eu à attendre avant que l'on m'introduise dans son bureau. Nous demeurâmes près de 2 heures en tête-à-tête. Juste interrompu une dizaine de minutes par l'arrivée impromptue de Brigitte Macron, qui voulait me saluer et me témoigner son soutien comme son affection. Je savais qu'elle était sincère, m'ayant toujours encouragé politiquement. Je découvris avec stupeur que le président venait de réaliser que j'allais être incarcéré dans 4 jours. Rien n'avait été anticipé, en tout cas dans son esprit. Il me parut sincèrement troublé, voire choqué par cette perspective. J'étais tout à la fois touché par son émotion et interloqué par cette surprise non feinte. Il développa alors une énergie impressionnante, sympathique, mais qui m'a paru à la fois trop tardive et surtout assez brouillonne. Son inquiétude portait principalement sur ma sécurité en milieu carcéral. Il était bien temps de s'en préoccuper. Il m'interrogea sur le délai d'audiencement de la demande de mise en liberté, que mes avocats déposeraient dès mon incarcération. On lui avait parlé de 3 semaines, et il considérait que ce délai était trop long. Emmanuel Macron me rappela dès le lendemain pour me dire que je devais changer d'établissement pénitentiaire car ma sécurité ne pouvait être garantie à la santé. Je devais en conséquence me rendre à la prison de Meaux ou à celle de Réau, précisant que j'y serais mieux installé puisqu'un appartement dédié aux familles de détenus pouvait être mis à ma disposition. Après l'avoir remercié, je refusais aussi fermement que catégoriquement tout changement. Je lui précisais même que je n'accepterais aucun traitement de faveur. Toute modification étant susceptible de provoquer une polémique, je voulais me conformer strictement à ce qui avait été initialement convenu par les autorités judiciaires. Je mis donc fin aux discussions en écartant toutes ces perspectives. J'étais déterminé à être incarcéré à la santé, quelles qu'en soient les conséquences sur ma sécurité personnelle. Chacun devait assumer ses responsabilités, y compris l'institution judiciaire. Face à ce refus, et comprenant que je ne changerais pas d'avis, Emmanuel Macron demanda au ministre de l'Intérieur de diligenter une évaluation de ma sécurité. Sur cette base, la décision fut prise de mettre 2 policiers du service de protection des hautes personnalités dans la cellule mitoyenne de la mienne pour que je sois protégé 24 heures sur 24 par des officiers de police armés. Je ne serai jamais assez reconnaissant à ces derniers, qui me suivent depuis si longtemps, d'avoir tous été volontaires, sans une seule exception, pour m'accompagner à la santé, ce qui signifiait pour chacun d'eux aller en prison. Le sacrifice était réel. Il me témoignait ainsi une amitié sincère qui constitua un très précieux réconfort. Leur présence dans le milieu carcéral ajoutait un élément de plus à l'étrangeté de la situation qui m'était réservée. Cette dernière fut renforcée par la décision de me faire résider dans le quartier des détenus dont la dangerosité imposait l'isolement complet. Personne ne les voit, personne ne les rencontre. L'étage n'est accessible qu'après une succession de contrôles plus sévères les uns que les autres, et quand l'un de ces détenus sort de sa cellule pour une raison ou une autre, c'est toute la prison qui s'arrête de fonctionner pour le laisser transiter. Mes futurs voisins seraient au choix des terroristes islamistes, des violeurs, des assassins ou des narcotrafiquants, délicieuses perspectives. Carla manifestait de plus en plus d'inquiétude. Elle avait désormais le plus grand mal à cacher son malaise, tout en la comprenant et surtout en la remerciant de son amour inébranlable. Je voulus lui faire partager ma conviction que mon choix était le bon parce qu'il était le seul possible. Quitte à boire le calice, autant le boire jusqu'à la lie. Aller en prison, alors que j'étais innocent, représentait une redoutable épreuve. Mais subir la double peine d'être emprisonné, tout en étant accusé de bénéficier de privilèges, aurait été insurmontable. Quelles que soient les conséquences, je ne pouvais ni l'accepter, ni même seulement l'envisager. Ma résolution était prise. Emmanuel Macron me téléphone une nouvelle fois, à la veille de mon incarcération, pour me dire qu'il comprenait, finalement, ma position. Je le remerciais et m'en trouvais assez soulagé. Son attitude durant ces derniers jours m'avait touché, même si elle n'avait rien changé. Aujourd'hui encore, je lui en sais gré. La prise de conscience était tardive, mais elle était réelle. J'en étais là de mes réflexions quand arriva le moment, tant attendu par mes adversaires irréductibles et tant redouté par moi, de découvrir ce qui allait devenir mon nouvel environnement. Ma voiture pénétra dans la cour de la santé. La porte se referma derrière nous. J'étais en prison. Je me sentis au bord du gouffre. J'essayais de faire le vide, de ne plus penser à rien, de me réfugier dans une bulle que je souhaitais le plus possible couper du monde extérieur. Je priais pour que mon corps ne me lâche pas. Christophe Ingrin était toujours à mes côtés dans la voiture, mais il n'avait pas obtenu la permission de pénétrer à l'intérieur de l'établissement. Nous nous serrâmes la main longuement, sans même nous regarder. Il y avait trop d'émotions. Je sortis de la voiture prestement. Je vis à peine ce que l'on désigne comme la cour d'honneur. Elle m'a paru d'une tristesse infinie. Tout mon nouvel environnement respirait le malheur, la lourdeur, le désastre de vie brisée, entassée entre ces murs, loin du monde des vivants. J'aurais été à 10 000 kilomètres de mon domicile avec un décalage horaire considérable que je n'aurais pas été plus dépaysé. Aucun espace n'exprimait le plus petit espoir ou la moindre humanité. Je fus frappé par l'absence de toute couleur. Le gris dominait tout, dévorait tout, recouvrait toutes les surfaces. Le premier contact était rude. Trois personnages importants pour ma nouvelle vie m'attendaient sur le pas de la porte. À leur tête se trouvait le directeur de l'administration pénitentiaire, jeune fonctionnaire barbu, à intelligence sympathique et visiblement mal à l'aise à l'idée de recevoir un colis si encombrant. Il fut le premier à me saluer. La hiérarchie n'est pas un vain mot dans l'administration. Le sous-directeur de la même administration, mais en charge de la seule Île-de-France, vint ensuite. J'ai perçu son émotion à l'idée de vivre ce moment historique. Il devait et il allait tout m'expliquer. Je succombais sous le flot continu de ses paroles. La tête me tournait alors que je n'aspirais qu'à me retrouver seul pour penser à Carla et aux enfants que je venais de quitter. Il était aimable, sans doute compétent, mais omniprésent. Enfin, vint le directeur de la prison lui-même, plus discret, un peu plus effacé, qui ne prononça pas une parole devant ses chefs. Il ignorait combien, à ce moment précis, je lui étais reconnaissant de sa réserve et de sa pudeur. Au moment où je pénétrais à l'intérieur des murs, je fus aussitôt entouré par le personnel pénitentiaire en charge de ma surveillance. Ils étaient quasiment tous originaires des territoires ultramarins. Grand gabarit, souriant et sympathique, je serrai la main de chacun, j'ai senti leur empathie embarrassée et leur étonnement de me voir incarcéré. Plusieurs m'ont dit, avec une sincérité touchante, « On ne comprend pas ce que vous faites ici. Ce n'est pas votre place. » C'était gentil et rassurant. Même si je mis quelques minutes à récupérer un usage normal de la main droite, après qu'elle eût subi de telles étreintes. La chef du greffe de la prison, une jeune femme blonde et empressée, m'attendait derrière un parloir à vitres blindées. Elle me fit signer ma mise sous écrou et m'assigna le numéro que j'ai évoqué plus haut. Elle me précisa ce que je savais déjà, que je me trouvais désormais à l'isolement. Je répondis en la remerciant poliment. Je paraphai les documents mécaniquement, décidé d'être ailleurs pour ma santé mentale. Je venais de quitter en pensée la prison. Je respirais à plein poumon le bon air de la liberté dans ma tête. Tout ce qui suivit fut fait par automatisme, comme si quelqu'un l'accomplissait à ma place. Pour la fouille, on me fit pénétrer dans une toute petite pièce sans fenêtre. J'étais seul avec un officier de la pénitentiaire. Passage obligé, même si je n'avais évidemment pas envisagé d'introduire dans la prison des armes, de la drogue, ni même un téléphone portable. Puis nous franchîmes un nombre incalculable de grilles imposantes, de portes pleines, de couloirs donnant sur des cellules fermées à double tour le temps de mon passage. Nous gravîmes 4 escaliers et très exactement 85 marches. Je les ai comptés. La prison me donnait le sentiment d'être à l'arrêt. Des surveillants et des surveillantes entièrement double vêtus saturaient le paysage. C'était à croire que tous s'étaient donné rendez-vous sur mon passage. Une dame en civil m'interpella gentiment, mais fermement. « Bonjour, président. Je suis la représentante syndicale. » Son sourire était assez avenant et son autorité naturelle visible. Elle aussi n'avait rien voulu manquer du spectacle de mon arrivée. Cela mettait de l'animation dans un quotidien dont j'ignorais tout, encore, mais dont j'imaginais aisément qu'il devait être tristement monotone. Je me demandais ce qui avait poussé chacun à choisir un tel lieu de travail. J'ai ressenti immédiatement une réelle considération pour ces personnels qui passaient littéralement leur vie en prison. Nous arrivâmes enfin à l'étage de l'isolement, situé au-dessus des cachots disciplinaires. Il y régnait un silence pesant. J'aurais pu croire les 11 cellules vides alors que je passais devant elles. En fait, elles étaient toutes occupées. Je franchis une nouvelle grille imposante. Le surveillant qui me précédait ouvrait les portes, puis les refermait immédiatement. J'étais entouré de 3 agents pénitentiaires auxquels venait s'ajouter leur chef. Ce dernier, souriant et sympathique, me glissa. « J'ai hâte de parler foot avec vous, même si je suis un supporter de Marseille. » Nous arrivâmes devant la cellule numéro 11, celle qui m'était destinée. Il fallut presque une minute pour ouvrir tous les verrous et loquets divers qui la ceinturaient. Le directeur m'indiqua qu'il me laissait quelques minutes avant de revenir me chercher, pour m'expliquer les règles de ma nouvelle vie. La porte se referma dans le fracas des verrous. J'étais enfin seul. Mon sac m'attendait. Il avait été déposé la veille. Le tour des lieux fut vite fait. Un simple regard me suffit. 12 mètres carrés. Un lit solidement fixé au mur par des plaques renforcées. Un petit bureau en bois clair, une douche, un réfrigérateur, une plaque chauffante, une télévision. Le tout dans la même pièce. Je me trouvais chanceux d'être seul. J'imaginais les autres détenus s'entassant parfois à 3 ou 4 dans le même espace. Bonne nouvelle. Ma cellule comportait 2 fenêtres consolidées. Chacune d'elles était obturée par un double système de barreaux et de grillages. L'évasion n'était guère envisageable, en tout cas pour un prisonnier comme moi. Je pouvais même les ouvrir. C'était un privilège pour celui qui aurait pu souffrir de claustrophobie. Hélas, d'imposants panneaux de plastique s'élevaient devant mes fenêtres, jusqu'à 3 mètres de hauteur. Cela avait l'avantage que l'on ne pouvait pas me voir, et le désavantage qu'il m'était impossible d'apercevoir le ciel, un oiseau volé ou un arbre frissonné dans le vent. Je ne pouvais même pas me rendre compte du temps qu'il faisait. Soleil, pluie, brouillard, tout ceci désormais me devenait étranger. En m'asseyant sur le lit qui n'était pas fait, j'eus un choc. Je n'avais jamais senti, y compris à l'armée lors de mon service militaire, un matelas plus dur, une table aurait presque été plus souple. Je demeurai quelques instants ainsi, l'esprit vide, perdu dans des pensées qui m'emmenaient loin, très loin, mais tellement près de Carla et de mes enfants. Le moment était dangereux. Je sentais que j'étais en train de devenir vulnérable à la tristesse. Je commençai à m'apitoyer sur moi-même. Je compris instantanément qu'en prison, il fallait rester sur le qui-vive, vis-à-vis des autres, comme de soi-même. En l'occurrence, je pouvais être mon pire adversaire. Il me fallait réagir d'urgence, ne pas m'abandonner à la mélancolie, au risque de devenir fou de chagrin. Je devais à tout prix occuper mon esprit. Je pris la décision de faire mon lit. Ce qui n'était pas une mince affaire, car celui-ci était fixé au mur par des plaques imposantes. Il fallut renoncer à en faire le tour. Outre sa rigidité, le matelas pesait un poids étonnant. Décidément, nous ne serions pas amis, lui et moi. Les oreillers étaient d'une drôle de matière, peut-être du plastique. Les couvertures n'en avaient que le nom. Leur minceur faisait peine à voir. Mais une fois le lit fait convenablement, la cellule prit un aspect plus humain. Il suffit de peu de choses parfois. Vider mes affaires fut plus aisé. J'avais emporté si peu. 3 cintres en plastique pendaient, stupides et isolés, à une patère. Quelques étagères en bois plaquées, c'était le minimum. Il allait falloir faire avec. Je me suis dit que c'était une bonne leçon et surtout qu'une fois sorti, j'apprécierais certainement davantage ma maison, mon lit, mon confort matériel, toutes ces choses que je considérais hier encore comme négligeables et qui prenaient dans cet univers carcéral une toute autre dimension. Pour le reste, la cellule était propre et assez lumineuse. On aurait pu se croire dans un hôtel bas de gamme, pour peu que l'on ignore la porte blindée, dotée d'un œilleton permettant l'observation régulière par les surveillants et bien sûr les barreaux, que je choisissais d'occulter pour ne pas déprimer. Chaque fois que je laissais mon regard se porter vers eux, mon moral s'assombrissait. C'était sans doute une habitude à prendre, je ne l'avais pas encore prise.